Bonjour, moi c'est Cassandre et je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon SOPK, le podcast dédié au syndrome des ovaires polykystiques. Par le partage d'informations, mais aussi de témoignages de femmes inspirantes touchées par le syndrome, je souhaite libérer la parole sur le SOPK et t'aider à mieux vivre ton syndrome au quotidien. Si tu le souhaites, tu peux me retrouver sur Instagram pour avoir accès aux différents contenus que je crée au quotidien. Aujourd'hui, j'aimerais revenir un petit peu aux bases, puisqu'il n'est pas toujours simple de trouver une définition claire du SOPK. Je voudrais aujourd'hui t'expliquer ce qu'est le syndrome, quelle est son histoire, quels sont ses symptômes principaux et comment il est actuellement défini par la médecine. Le SOPK, il a été décrit pour la première fois en 1935 par les chercheurs Stein et Leventhal. À l'époque, les formations qu'ils observent sur les ovaires ont été assimilés à des kystes ovariens, alors qu'ils n'en sont pas en réalité. Il s'agit en effet de follicules qui ne sont pas arrivés à maturité et qui restent dans les ovaires. Le syndrome a été nommé syndrome des ovaires polykystiques à ce moment-là, alors qu'il n'est absolument pas question de kystes, et j'insiste sur ce point. Donc malgré le fait qu'il ait été découvert il y a plusieurs dizaines d'années maintenant, ses mécanismes d'action ne sont pas encore totalement connus. Et des études sont actuellement menées afin de déterminer les causes du syndrome et son fonctionnement dans le but de permettre une meilleure prise en charge médicale des personnes touchées. Donc le syndrome des ovaires polykystiques, qu'on appelle autrement le SOPK, c'est un trouble endocrinien. Ça veut dire qu'il cause une perturbation de l'équilibre hormonal du corps. Il toucherait environ 10% des personnes menstruées. Mais ce pourcentage est à prendre avec énormément de précautions parce qu'il va différer selon les études, la population étudiée et les critères de diagnostic retenus. Ainsi, si on regarde une autre étude de 2014, vous avez toutes les sources dans mon article de blog, il toucherait plutôt entre 15% et 20% des personnes en âge de procréer. Et donc là, on est sur un chiffre nettement supérieur. Je pense que des études seront menées et nous donneront davantage de précision dans les années qui viennent, mais en tout cas, il faut retenir que ce pourcentage de 10% n'est pas forcément un pourcentage véridique, il peut être nettement supérieur, et donc voilà, faut rester assez critique vis-à-vis des pourcentages annoncés. Donc l'origine du syndrome, il n'est pas encore clairement établi, et il pourrait être génétique, épigénétique et ou environnemental. Il constitue la première cause d'infertilité chez les personnes en âge de procréer. Ça par contre, c'est un chiffre sûr. Donc pour revenir un petit peu sur les bases, un syndrome, c'est un ensemble de symptômes. Ça veut dire que le SOPK, il est caractérisé par la présence systématique de plusieurs symptômes. Donc plusieurs symptômes sont observés et donc on conclut au syndrome du SOPK. Cependant, on verra qu'il n'est pas nécessaire d'avoir tous les symptômes pouvant être rattachés au syndrome des ovaires polykystiques pour être diagnostiqué du syndrome des ovaires polykystiques. Donc, pour résumer, cette maladie provoque un bouleversement hormonal qui peut avoir plusieurs origines et qui se traduit par différents symptômes. J'aimerais maintenant revenir sur un point qui est l'appellation du SOPK, puisque malgré le fait qu'on puisse trouver des définitions claires, parfois le syndrome est nommé différemment et ça peut être assez déroutant puisqu'on peut se demander si du coup on n'a pas une autre maladie ou bien on se demande si les informations qu'on lit sont vraiment rattachables au syndrome des ovaires polykystiques. Mais donc ces autres appellations désignent bien ce même syndrome et donc on peut le retrouver dénommé de différentes manières. Par exemple, on peut entendre parler de dystrophie ovarienne. C'est un terme que j'ai rencontré quelques fois. Mais le mot dystrophie, ça désigne un trouble résultant de la nutrition déficiente d'un tissu ou d'un organe, d'après le dictionnaire Larousse. Et donc étant donné qu'à l'heure actuelle, la nutrition déficiente des ovaires n'est pas désignée comme cause principale du syndrome, je suppose que c'est pour ça que ce terme est peu employé, en tout cas pour l'instant. Et donc il semble moins approprié que le terme de syndrome des ovaires polykystiques. On entend aussi parler du syndrome des ovaires micropolypiques. je vais pas réussir, du syndrome des ovaires micropolykystiques, le SOMPK. Et cette dénomination-là, elle est beaucoup plus courante et elle désigne de même le SOPK. Donc le terme micropolykystique, il serait employé pour désigner le syndrome d'une personne dont l'échographie révèle un ou deux ovaires multifolliculaires, mais dont les multiples follicules sont de petite taille. Et donc là, on n'a pas énormément de précision. J'imagine que les personnes qui réalisent les échographies sont capables de voir très nettement la différence entre l'échographie d'une personne qui aurait des petits follicules sur les ovaires ou des plus gros follicules présents sur les ovaires. Mais c'est vrai que j'ai pas trouvé d'informations claires sur la taille des follicules qui caractérisent un syndrome des ovaires micropolykystiques par rapport à un SOPK classique, entre guillemets. Et le troisième terme qu'on peut rencontrer, c'est le syndrome de Stein-Leventhal. Et donc cette appellation, elle désigne aussi bien sûr le SOPK, en référence aux chercheurs qui l'ont décrit pour la première fois en 1935. Là, ça reste assez logique. Mais on peut aussi entendre parler d'autres expressions, comme la polykystose ovarienne, OMPK, donc ovaire micropolykystique, ou OPK, ovaire polykystique. Et donc, je tenais à faire un petit point sur l'emploi de ces termes-là, puisque, à titre totalement personnel, ça me semble un petit peu bancal, ça me semble un petit peu inapproprié d'utiliser ces termes pour désigner le syndrome, donc là j'entends, on est atteinte du syndrome des ovaires polykystiques. À mon sens, il vaut mieux éviter de dire qu'on est atteinte des ovaires micropolykystiques ou des ovaires polykystiques ou d'une polykystose ovarienne. Alors pourquoi est-ce que j'ai cet avis-là? Eh bien, tout simplement puisque ces trois termes-là vont désigner le fait que les ovaires présentent un aspect multifolliculaire. Or, la présence d'un aspect multifolliculaire d'un ou des deux ovaires n'est pas indispensable au diagnostic du SOPK. Ainsi, il y a des femmes qui sont diagnostiquées comme étant atteintes du syndrome des ovaires polykystiques qui n'ont pas des ovaires à l'aspect multifolliculaire. Et donc, employer ces termes-là est assez réducteur puisque du coup il fait un peu plus l'impasse sur les autres symptômes du syndrome et en ce sens-là je trouve que c'est moins pertinent de les employer et je pense qu'il est beaucoup plus pertinent de bien faire attention à parler du syndrome des ovaires polykystiques ou du SOPK, du SOMPK à la rigueur, du syndrome des ovaires micropolykystiques, mais de ne pas juste réduire ce syndrome aux ovaires polykystiques, aux ovaires micropolykystiques, puisque ce n'est qu'un symptôme parmi tous les symptômes qui peuvent être rattachés au syndrome. Là encore, il n'y a aucune interdiction d'employer ces termes-là, c'est vraiment un avis personnel sur la question que je voulais vous partager. Pour maintenant revenir un petit peu sur les symptômes, justement, qu'on peut observer chez les femmes atteintes, chez les personnes menstruées, pardon, atteinte du syndrome des ovaires polykystiques, on peut retrouver donc un ou deux ovaires à l'aspect multifolliculaire, donc qui est visible à l'échographie, une perturbation des cycles, on peut observer des cycles longs, des cycles irréguliers, une ovulation plus rare ou une ovulation absente. On peut aussi observer une pilosité excessive, de l'acné, une perte de cheveux, des maux de tête récurrents, une fatigue chronique ou une difficulté à perdre du poids. Cette liste, elle n'est absolument pas exhaustive et j'y reviendrai beaucoup plus en détail dans un autre épisode. Et donc il n'est pas nécessaire d'avoir tous les symptômes que je viens de citer pour être diagnostiqué comme ayant le syndrome des ovaires polykystiques. Je t'expliquerai là encore dans un épisode ultérieur quels sont les critères retenus par la médecine pour poser le diagnostic du SOPK. Et donc malgré le fait qu'il existe des similitudes entre les personnes touchées, deux personnes atteintes du syndrome n'auront pas forcément les mêmes symptômes, et même deux personnes ayant les mêmes symptômes ne les ressentiront pas forcément de même intensité. Donc s'il y avait 6 points à retenir, je dirais premièrement que le SOPK est un syndrome, c'est-à-dire que c'est un ensemble de symptômes qui provoque un déséquilibre hormonal. Il toucherait plus de 10% des personnes menstruées. C'est la première cause d'infertilité chez les personnes en âge de procréer. De nombreuses dénominations désignent ce syndrome. Des recherches sont actuellement menées afin d'améliorer sa prise en charge. Et dernier point, beaucoup de symptômes plus ou moins difficiles à vivre peuvent y être liés. Donc voilà pour aujourd'hui les points que je voulais aborder. Si tu as apprécié cet épisode et que tu as passé un bon moment avec moi, n'hésite pas à me soutenir en me laissant une note sur Spotify ou Apple Podcast ou en me suivant sur Instagram. Je te souhaite une excellente journée et te dis à très bientôt !